Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui en cette belle journée que le Seigneur nous donne. Plongeons et confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons fait quelques catéchèses sur le Saint-Esprit. On n'aura jamais fini, bien sûr, de parler de l'Esprit-Saint. Nous avons parlé spécifiquement des dons du Saint-Esprit, des sept dons du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je voudrais clôturer un peu sur les charismes, dons et charismes. Quels sont-ils? Pourquoi vivre des charismes? Etc, etc, c'est le sujet du jour. Et je vous annonce par anticipation les sujets à venir. Nous parlerons de l'Église, de cette merveille qu'est le mystère de l'Église, justement. Habiter, insufflé par le Saint-Esprit qui est l'âme de l'Église, comme on dit, nous aurons l'occasion d'y revenir pendant de nombreuses catéchèses. La richesse spirituelle de l'Église. Voilà. Mais avant de parler de l'Église, il nous faut parler du Saint-Esprit. Les charismes. Il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui parle de charisme. Le texte par excellence, référence entre guillemets, c'est celui de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, versets 4 à 11. Il nous dit par exemple, il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit, diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur, diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère en tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Déjà, c'est la grande distinction que nous faisons entre les dons du Saint-Esprit, qui nous sont donnés pour notre édification personnelle, notre sanctification personnelle, et les charismes, qui ne nous sont pas donnés pour notre sanctification personnelle, même si au cours de l'exercice des charismes, eh bien, si nous le voulons bien, nous pouvons nous en servir pour grandir dans la sainteté. Mais l'objet d'un charisme, du Saint-Esprit, je précise, on n'est pas dans le domaine naturel, mais surnaturel, l'objet du charisme, c'est d'édifier le corps que nous formons, le bien commun. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Alors, c'est une très belle parole déjà, et une très belle vérité, c'est que nous sommes dans une place, chacun, les uns à l'égard des autres, dans une posture de service. Où nous sommes au service de la communauté, de l'Église, du bien commun. Le bien commun étant, bien sûr, la sainteté de chacun. Il faudrait que je retrouve dans le catéchisme de l'Église catholique, que je n'ai pas sous les yeux, la définition du bien commun, c'est magnifique. Qui n'est pas tant la somme des biens personnels, mais qui est plus grand. Alors, c'est que le bien commun, je le dirais comme ça, c'est que non seulement chacun puisse grandir en sainteté, mais non seulement chacun, mais ensemble. Car nous sommes liés les uns aux autres, non seulement par l'unité de l'espèce humaine, non seulement par les liens du sang pour les familles, mais par une unité toute spéciale que nous avions perdue et que Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous a redonné. Il est venu rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Les enfants de Dieu dispersés. Alors, il a fallu d'abord que nous retrouvions notre identité de fils et de fille bien-aimés du Père. Et se redécouvrir comme étant les membres du corps du Christ. C'est ce corps du Christ dont nous sommes membres, que l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, vivifie, anime, et dont il pourvoit tous les dons et les charismes. Alors saint Paul, dans le passage que je vous cite, au 12e chapitre de la première aux Corinthiens, nous dit justement, à l'un c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit, à tel autre un discours de science, selon le même Esprit, à tel autre un autre la foi, dans le même Esprit, à tel autre les dons de guérison, dans l'unique Esprit, à tel autre la puissance d'opérer des miracles, à tel autre la prophétie, à tel autre le discernement des esprits, à un autre les diversités de langues, à tel autre le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même Esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier, comme il l'entend. Ah, c'est bien ça, comme il l'entend. Un deuxième passage de ce même saint Paul, cette fois-ci dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12, qui nous dit ceci. Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je le dis à tous et à chacun, ne vous surestimez pas plus qu'il ne faut vous estimer. Mais gardez de vous, une sage estime. Chacun selon le degré de foi que Dieu lui a départi. Car de même que notre corps en son unité possède plus d'un membre, et que ses membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi, nous, à plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, étant chacun pour sa part, membres les uns des autres. Mais pourvu de dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, si c'est le don de prophétie, exerçons-le en proportion de notre foi. Si c'est le service, en servant. L'enseignement, en enseignant. L'exhortation, en exhortant. Que celui qui donne le fasse sans calcul. Celui qui préside avec diligence. Celui qui exerce la miséricorde en rayonnant de joie. En revenant dans la première lettre aux Corinthiens, saint Paul nous dit « Vous êtes, vous, le corps du Christ et membres chacun pour sa part. Et ceux que Dieu a établis dans l'Église sont premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs. Puis il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, les diversités de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous prophètes? Tous docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Eh ben non. Il y a donc beaucoup de charismes dans l'Église. Ce même saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, il nous dira que c'est lui, le Seigneur, qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère en vue de la construction du corps du Christ. Tous ne sont pas évangélistes, tous n'écrivent pas, Il y a quatre évangélistes. Il y en a d'autres qui ont écrit des lettres. Ça n'était pas donné et demandé à tout le monde. Saint Pierre, lui, dans sa première lettre, chapitre 4, nous dit « Mettez-vous chacun selon la grâce qu'il a reçue au service les uns des autres, comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu, variés en ses effets. Si quelqu'un parle, que ce soit pour transmettre les paroles de Dieu, si quelqu'un assure le service, que ce soit avec la force que Dieu accorde, afin que par Jésus-Christ Dieu soit totalement glorifié, lui à qui appartiennent gloire et domination pour les siècles des siècles. Amen. » Saint Marc, à la fin de son évangile, dit que Jésus lui-même proclame que les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris. Il y a donc des charismes qu'on appelle signes ici et qui accréditent la parole de Dieu. Voilà les six textes, il y en a un septième. C'est Jésus qui souligne que l'exercice des charismes n'est pas de soi un signe de sainteté. On dit en théologie que ce qui est de l'ordre charismatique n'est pas de l'ordre forcément de la grâce sanctifiante. Bon, c'est une distinction importante, même si forcément il y a un lien entre les deux, mais on peut se baser sur le 7e chapitre de Saint Matthieu, versets 21-23, où Jésus dit « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons chassé les démons ? En ton nom que nous avons fait bien des miracles ? Alors je leur dirai en face, « Jamais je ne vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, on va y revenir. Le plus important, comme dit saint Paul, dans la foulée d'ailleurs de ce qu'il donne comme charisme, en nous disant « Aspirez au don supérieur et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. Si je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, etc. » Et puis là, c'est l'hymne à la charité qui arrive et qui remet à sa juste place l'exercice des charismes. Autrement dit, nous ne serons pas jugés sur les charismes, mais sur la sainteté avec laquelle, la charité avec laquelle, l'amour avec lequel nous aurons vécu toutes choses, dont l'exercice des charismes. Car bien sûr, l'exercice des charismes, s'il est un don de Dieu au service du bien commun, au service de la communauté, comme il passe par un homme, une femme, eh bien, pécheurs que nous sommes, nous pouvons nous emparer orgueilleusement, comme une richesse. Malheureux vous les riches ! Une richesse pour nous, alors qu'elle était juste pour les autres, et qu'il fallait juste exercer tel ou tel charisme, en étant pauvre de cœur, en ne mettant pas la main dessus, comme sur tous les dons que Dieu nous fait. Alors voilà, un petit peu le piège, j'allais dire, la tentation spirituelle le risque que prend Dieu en nous donnant des charismes. Alors, comment les classer? C'est pas facile parce que il y a toutes sortes de listes. Il y a plusieurs, évidemment, plusieurs personnes qui se sont penchées sur la question et les classifications ne sont pas les mêmes. Alors, j'ai travaillé un petit peu quand même la question. Avant de vous parler de la classification, je tiens à préciser que le magistère de l'Église en parle, Lumen Gentium en parle, donc le Concile Vatican II, Constitution sur l'Église, nous dit « L'Esprit habite dans l'Église et dans le cœur des fidèles comme dans un temple. En eux, ils prient et attestent leur condition de fils de Dieu par adoption. Cette Église, il l'équipe et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. Il l'orne de ses fruits. » Les dons hiérarchiques, les apôtres, les docteurs, etc. Et charismatiques. Lumen Gentium, au numéro 12, il revient en citant 1 Corinthiens 12. Je vous lis. « L'Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et les ministères, à le conduire et à lui donner l'ornement des vertus. Il distribue aussi parmi les fidèles les grâces spéciales qui rendent aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices utiles au renouvellement et au développement de l'Église, suivant ce qu'il est dit, de point, ouvrez les guillemets, c'est toujours pour le bien commun que le don de l'Esprit se manifeste dans un homme, 1 Corinthiens 12, 7. Ces grâces, nous dit Lumen Gentium numéro 12, des plus éclatantes aux plus simples et aux plus largement diffusées, doivent être reçues avec action de grâce et apporter consolation, étant avant tout ajustées aux nécessités de l'Église et destinées à y répondre. Mais les dons extraordinaires ne doivent pas être témérairement recherchés. Ce n'est pas de ce côté qu'il faut espérer présomptueusement le fruit des œuvres apostoliques. C'est à ceux qui ont la charge de l'Église de porter un jugement sur l'authenticité de ces dons et sur leur usage, bien entendu. C'est à eux qu'il convient spécialement, non pas d'éteindre l'esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui est bon. Alors, il peut y avoir, bien sûr, dans la vie réelle, quelques petits échauffements entre la hiérarchie et l'exercice des charismes, alors que c'est complètement, ça devrait fonctionner dans une merveilleuse harmonie. Alors, ce même magistère de l'Église nous parle dans un décret sur l'apostolat des laïcs, au numéro 3, ceci, il nous dit « Pour l'exercice de l'apostolat des laïcs, le Saint-Esprit, qui sanctifie le peuple de Dieu par les sacrements et le ministère, accorde en outre aux fidèles des dons particuliers, les répartissant à chacun comme il l'entend, pour que tous et chacun selon la grâce reçue, se mettant au service des autres, soient eux-mêmes comme de bons intendants de la grâce multiforme de Dieu, en vue de l'édification du corps tout entier dans la charité. De la réception de ces charismes, même les plus simples, résultent pour chacun des croyants le droit et le devoir d'exercer ses dons dans l'Église et dans le monde. Et saint Jean-Paul II disait dans l'exhortation apostolique sur les fidèles laïcs, justement, en 1988, au numéro 24, je cite, « Le Saint-Esprit, en confiant à l'Église communion les différents ministères, l'enrichit d'autres dons et impulsions particulières appelées charismes. Ceux-ci peuvent prendre les formes les plus diverses, soit comme expression de la liberté absolue de l'Esprit qui les accorde, soit comme réponse aux multiples exigences de l'histoire de l'Église. La description et la classification que nous fournissent de ces dons les textes du Nouveau Testament sont un signe de leur grande variété. Les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit, mais aussi par tous les membres de l'Église. Alors voilà ce que nous dit un petit peu quelques textes du magistère de l'Église sur les charismes, et justement comment les classer, les classifier, sans les enfermer. Alors plusieurs manières possibles, j'en retiens une. En quatre groupes. Premier groupe, tout ce qui concerne la parole. Des paroles de sagesse, donc le charisme de sagesse, comme dit saint Paul au 1 Corinthiens 12. Paroles de connaissance, de prophétie, de prédication, d'enseignement. Tout ce qui passe par la parole et qui est nécessaire pour annoncer la bonne nouvelle. Donc ce sont des charismes que l'Esprit-Saint donne à des gens, à des fidèles, à des prêtres, à des évêques, pour prêcher, par exemple. Pour enseigner, par exemple, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même charisme. Prêcher et enseigner, ce n'est pas la même chose. Nous avons fait l'expérience, parce que nous connaissons tous des gens qui enseignent très très bien. Très bons professeurs de théologie, de philosophie, des gens vraiment qui ont on dirait un don comme ça, mais au fait c'est un charisme. Même s'il y a peut-être des dispositions naturelles, des talents naturels, fussent-ils remarquables, notons qu'ils sont insuffisants pour l'exercice du ministère. Insuffisants parce que le charisme, c'est un don du Saint-Esprit, qui n'a pas forcément besoin de cette base naturelle des talents naturels. Rappelez-vous, par exemple, lorsque nous parlons de prédication, que Moïse, ben il avait des petits soucis, hein. Il était bègue, rappelez-vous. Moïse bégayait. C'est pourquoi il a eu l'aide de son frère Aaron. Et Dieu se plaît à donner des charismes à des gens qui n'ont pas le talent naturel. Pourquoi? Parce que, comme ça, Dieu se glorifie de ce qu'il est à travers notre faiblesse. Et comme ça, on ne peut pas s'enorgueillir. On ne peut pas dire « moi j'ai un diplôme dans tel ou tel domaine ». C'est très bien d'avoir des diplômes, c'est très bien d'avoir travaillé, bien sûr. Pour prêcher, vaut mieux, pour enseigner la Bible, vaut mieux avoir travaillé la Bible. Hein. Je le confirme. Et donc, il aura fallu mettre du temps, de l'énergie, avoir une discipline de vie, bien sûr. Mais l'Esprit-Saint est libre. Il est libre de passer par quelqu'un qui a bossé comme un fou, ou quelqu'un qui a moins travaillé, ou qui a moins de dons naturels, vous voyez, de talents naturels. Alors, tout ce qui passe par la parole. Est-ce que vous repérez dans votre vie cela, dans votre environnement ecclésial? Est-ce que vous repérez ceux et celles qui ont un charisme d'enseignement, de prédication, de prophétie? Alors la prophétie, ce n'est pas de prédire l'avenir. Hein. Le charisme de prophétie, c'est de parler au nom de Dieu. J'en parlerai tout à l'heure, lorsque je parlerai justement de comment se disposer à exercer des charismes. Il se peut que pour telle ou telle personne, eh bien, en parlant au nom du Seigneur, cette parole prononcée va ouvrir des chemins extraordinaires dans les cœurs. Cette parole prononcée sera un glaive à deux tranchants. Et pourtant, cette personne n'a pas fait de grandes études, cette personne n'a pas un diplôme en théologie, elle ne connaît pas, comme sur le bout de ses doigts, toute la Bible, mais elle vit avec le Seigneur, au nom du Seigneur. Elle vit de son amour, de sa parole, et dans l'Esprit Saint. Et alors, il se peut que le Seigneur se saisisse de cette personne pour parler à une autre personne à travers elle. Eh oui. C'est le charisme de prophétie. Parler au nom du Seigneur. Et de temps en temps, pardon, de temps en temps, on sent que ça monte, ça monte, ça monte, il faut qu'on dise quelque chose. C'est un signe que ça ne vient pas de nous, c'est pas une idée préconçue. Il faut que je dise telle chose à telle personne, donc je prépare ma phrase, je la tourne 7 fois dans ma langue, et quand la personne arrive, non, c'est pas ça. C'est pas ça le charisme de prophétie. Car encore une fois, celui qui vit des charismes, normalement, il est invité à une grande pauvreté de cœur et à laisser ses idées derrière sa porte et à parler au nom du Seigneur, à l'instant présent, et à vivre les choses au niveau de son cœur habité par le Seigneur. Donc tout ce qui se range dans tout ce qu'il y a à la parole. Parole de connaissance, ça va être par exemple dans une assemblée de prière. Quelqu'un qui va dire, le Seigneur s'adresse à quelqu'un qui se reconnaîtra, et le Seigneur lui dit, je t'aime, je t'ai toujours aimé. Aujourd'hui, je t'accueille dans mes bras. Je suis prêt à recevoir tous les péchés de ta vie. Cette personne se reconnaîtra parce qu'elle a un pantalon bleu et un téléphone portable qui est cassé dans sa poche. Voilà. Comment il dit ça, lui? Ah ben, charisme de parole de connaissance, comme on dit. Alors là, il faut vérifier. Il faut toujours vérifier dans ce contexte. C'est sûr que il faut vérifier. Ça m'est arrivé dans une assemblée un jour d'entendre des paroles de connaissance qui étaient fausses, erronées. Donc ben voilà, faut que la personne qui exerce le charisme soit vérifiée et ajustée, soit ajustée. Voilà, s'ajuste. Que ce soit par la parole de connaissance, que ce soit par l'image, la prophétie ou l'image aussi, parce qu'il y a des gens plus disposés aux images. Et donc le Seigneur peut parler à travers des images que reçoit telle ou telle personne dans un contexte de prière, d'assemblée charismatique par exemple. Et puis ben, faut vérifier aussi. Faut que ça touche, faut que ça corresponde à la vérité de ce que Dieu est en train de faire, bien sûr. Deuxième bloc, deuxième tiroir, tout ce qui touche à la puissance, charisme de puissance, on a une belle catégorie. C'est tout ce qui va toucher la guérison, charisme de guérison, les miracles, l'exorcisme, qui sont des manifestations de la bonne nouvelle et qui démontrent la vérité de l'Évangile. Jésus vivant, Jésus sauveur. Jésus non seulement sauveur, mais qui vient te guérir de telle maladie physique, psychique, ou d'un vice, d'une tendance pécamineuse qui t'encombre depuis des années. Dans le mystère du gouvernement divin, de sa sagesse, le Seigneur peut tout à fait choisir de dire aujourd'hui, je te guéris. ou je ne te guéris pas. Alors nous avons la grâce à Radio Maria France tous les jeudis de prier et d'avoir une prière d'intercession et de guérison. Certains d'entre vous, nous avons eu quelques retours et je vous remercie si jamais cela vous arrive, de nous donner des retours, de nous dire, voilà, j'ai été touché, je confirme, telle parole, telle prière, eh bien, Dieu m'a visité, Dieu m'a guéri. Et donc, le Seigneur donne des charismes de guérison à des gens pour passer à travers eux, pour manifester sa puissance, son amour. Il peut y avoir des miracles, bien sûr, des profondes délivrances. Troisième tiroir, il y a les charismes qui sont liés au service, même si vous avez compris que tous les charismes ont la tonalité du service. Mais j'allais dire pour administrer, gouverner, guider, discerner. Alors ce sont des charismes qui sont donnés à ceux qui sont responsables, par exemple. Pour avoir le charisme de discernement. Pour ceux qui sont responsables, que ce soit les petites, moyennes ou grandes responsabilités, si vous êtes chrétien, vraiment demandez ce charisme. Aspirez au don supérieur. Pour que vous puissiez exercer votre charge, non pas simplement humainement, mais divinement. Pour que vous ayez le coup de pouce du Saint-Esprit. Non seulement le coup de pouce du Saint-Esprit, mais pour que vous soyez serviteur du Saint-Esprit. Et qu'à travers vous, ce soit l'Esprit Saint qui édifie, qui vous aide à voir clair, qui vous aide à prendre les bonnes décisions selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, oui. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Déjà humainement, et puis divinement, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Ça, c'est la catégorie des services. Et puis, la catégorie qui est liée à la prière. L'intercession, parler en langue, chant en langue. Et alors, avec la petite particularité du parler, chanter en langue, qui est, lui, par contre, d'abord au service de celui qui l'exerce. C'est le plus petit. Des charismes, comme on dit, le parler et le chant en langue. Mais c'est un charisme qui ouvre à l'action du Saint-Esprit, qui est différent du don des langues, qui est un autre charisme. Le don des langues, c'est par exemple quelqu'un qui va se mettre à parler dans un dialecte, que personne ne comprend, sauf, tiens, dans l'assemblée, ce jour-là, il y a quelqu'un qui de l'Inde, vous voyez, qui est là, et qui connaît très très bien ce dialecte, et qui comprend tout à fait ce que Dieu lui dit. Dieu avait un message pour lui, dans ce dialecte, que la personne qui prononce des mots ineffables, incompréhensibles, eh ben, la personne à qui Dieu voulait s'adresser a très bien compris. Message reçu, 5 sur 5. Ça, c'est le don des langues. Qui est différent du chanter en langue ou du parler en langue. Et puis, on pourrait rajouter un petit peu, parce que la liste n'est pas exhaustive, vous voyez, on ne veut pas enfermer le Saint-Esprit dans des catégories, dans des tiroirs. Il y a de beaux charismes, par exemple, les gens qui sont comme ça, qui ont des charismes d'accueil, par exemple. Des charismes de compassion. Dans des lieux ecclésiaux comme ça, on va vers ces personnes pour se confier. Ou on va vers tel autre pour avoir un bon conseil. C'est des charismes de la vie ordinaire, comme on dit, mais qui sont de vrais charismes. Et qui ne sont pas, encore une fois, fondés sur des dons naturels. Mais qui sont... Il y a des gens qui sont poussés par le Saint-Esprit pour... être dans cette posture d'accueil, d'écoute, de conseils. Et tout cela, ça édifie la communauté. C'est très beau. Ensuite, ben je pense que j'ai fait le tour. Bien sûr, j'attendrai vos questions. Je voudrais terminer cette catéchèse en vous parlant brièvement comment se disposer à exercer les charismes. Peut-être je vous donnerai trois petites clés. La première clé qui me semble importante, et ça va pour notre vie de tous les jours, c'est de se vivre comme un envoyé. Nous sommes envoyés vers nos frères et sœurs pour les aimer, pour vivre ce qu'on a à vivre. Mais nous sommes envoyés par le Seigneur pour vivre en son nom. Alors bien sûr, si je vis en mon nom propre et si je ne me vis pas comme un envoyé du Seigneur vers mes frères et sœurs, le Seigneur ne va rien déposer dans mon cœur. Parce que là, je serai là en train de vivre ma petite vie avec moi-même, pour moi-même. Et puis, on va, si vous voulez, parler de la politique et de la situation sanitaire pendant des heures et des heures. Mais on ne va pas, si vous voulez, exercer quelque chose vraiment au nom du Seigneur. On n'aura pas de parole d'en haut, on n'aura pas de... Vous voyez, pourquoi? Parce qu'on sera juste là avec nous-mêmes. Et puis, nos frères et sœurs aussi seront là avec eux-mêmes. Et ça fait... Ça fait une rencontre mondaine, vous voyez. C'est mondain. Le monde vit comme ça. Il ne s'édifie pas forcément. Parce que chacun a ses opinions, chacun a son apport propre, mais on ne décolle pas du niveau naturel. Le charisme, c'est différent. Pour vivre des charismes, il faut se considérer comme un envoyé. Et puis vivre au nom du Seigneur, c'est-à-dire regarder au nom du Seigneur, parler au nom du Seigneur, se taire au nom du Seigneur. Mais c'est être dans cette dynamique de l'amour, dans cette actualité de l'amour. Encore une fois, ce qui prime, c'est la charité. Et donc si je suis dans l'amour, il plaira au Saint-Esprit de nous glisser à l'oreille du cœur, tiens, une petite parole, une attitude, un regard, un sourire, un silence, une présence. Et puis, il y a peut-être des choses qui vont nous monter au cœur, des choses qui vont sortir à travers notre bouche. On va peut-être se taire lorsque les paroles de médisance vont commencer à arriver sur tout le monde. Vous voyez, si nous nous vivons, que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la gloire du Père, si nous vivons notre quotidien comme ça, on sera étonné de voir le Saint-Esprit déployer ses charismes. Invoquons donc le Saint-Esprit sur chacun de nous maintenant. Esprit Saint, nous te demandons de nous faire vivre en régime surnaturel notre vie quotidienne. Si l'exercice des charismes nous donne beaucoup de joie parce que c'est la joie de la communauté, la joie non pas individualiste, mais la joie de grandir ensemble, d'être édifié par toi ensemble. Et si nous te demandons de nous donner plein, 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 plein de charismes à nous tous, pour la gloire du Père, pas pour la nôtre. Oui, nous te le demandons. Aujourd'hui, aux auditeurs de Radio Maria France, dans la situation dans laquelle ils vivent, situation familiale, situation professionnelle, situation ecclésiale, viens, Saint-Esprit, déverser tes charismes comme bon te semble. Nous nous ouvrons à ta folie. Nous nous ouvrons à ta liberté. À tes folies d'amour, à tes plans d'amour sur chacun de nous et sur le corps que nous formons. Nous sommes d'accord, Esprit Saint, pour vivre au nom du Seigneur Jésus et vivre dans ton amour au nom de Jésus, et d'être attentif à ce qui se passe dans notre cœur. Viens, Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.